Et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des couples mixtes ou l'amour sans frontières. Est-ce si simple ? Rien que dans l'Union européenne, environ 350 000 mariages de couples binationaux sont célébrés chaque année. Et partout dans le monde, les couples mixtes n'ont jamais été si nombreux. Avec les voyages, les études à l'étranger, les sites internet, rencontrer l'amour loin de chez soi est finalement devenu une banalité. Mais est-ce si simple de construire à deux dans ces conditions ? Je pense à la langue, à la culture, à la religion et même à l'ethnie. Comment cohabiter avec ces différences ? Quels obstacles à surmonter pour l'éducation des enfants, par exemple ? Et puis en cas de séparation, comment éviter les conflits judiciaires internationaux ? Nous allons en discuter avec nos invités. Charlotte Rosamond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice à l'association Les Amoureux au Bon Public. C'est une association qui fait essentiellement du conseil juridique administratif.
Du plaidoyer politique aussi, et puis sensibilisation de l'opinion publique, parce que justement, les couples franco-étrangers qui souhaitent construire à deux font parfois face à des difficultés au niveau administratif.
Casse-tête administratif, c'est ça, voilà. Pour l'histoire de visa, etc. Isabelle Lévy, vous êtes auteure de plusieurs ouvrages sur les pratiques religieuses, dont oui. Vivre en couple mixte. Quand les religions s'en mêlent. Bonjour.
Bonjour.
Avec un très joli jeu de mots dans le titre de votre livre, cette image de religion entrelacée.
Entrelacée.
Nous serons également en ligne avec la psychiatre anthropologue Berthe Lolo, qui est camerounaise et qui exerce en France. Elle a aussi travaillé sur les mariages interethniques en Afrique. Et bien sûr, les voisins et les voisines, nous attendons vos témoignages. Si vous avez fondé un couple mixte, appelez-nous pour nous parler de votre histoire. Comment réagit votre entourage, par exemple ? Quel est le ciment de votre couple en dehors des sentiments ? Émission spéciale couple mixte. Aujourd'hui, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook. Jean-François Bujumbura au Burundi nous dit « Moi, je suis Hutu, mariée à une Tutsi. Si on était en 1993, on aurait crié au scandale, mais aujourd'hui, c'est possible. » Bah oui, référence à la guerre civile interethnique qui a duré des années au Burundi. Bruno, à Madagascar. « Je suis belge, mariée à une malgache depuis plus de 17 ans. Sa patience m'étonne toujours. Nous avons sûrement plus en commun, tous deux, qu'avec certains de nos compatriotes respectifs. » Ousmane Djamena, au Tchad, je suis tchadien, musulman, marié avec une juive, aucune complication. Voilà, on n'en saura pas plus.
À mon avis, pas pratiquant tous les deux.
Vous dites, à votre avis, pas pratiquant tous les deux.
Religieux.
C'est rare d'être musulman au Tchad sans être pratiquant. Mais bon, oui. si Ousmane peut nous appeler, qu'il est disponible, je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Je vous lis aussi le témoignage d'Abdoulaye, Conakry, en Guinée. Je suis malinké, je vais épouser une jeune femme Peul, mais ses parents disent non. Déjà parce que j'ai des années en concubinage avec la fille en question, mais aussi et surtout parce que nous ne sommes pas de la même ethnie. Et quant à mes parents, ils disent que je ne dois pas épouser une femme Peul, car elle va me trahir un jour. Mon désir, à Lomé, au Togo, moi je pense au contraire que c'est le mariage de même ethnie qui ne marche pas. S'il n'y a pas de mélange, il n'y a que des problèmes. Évidemment, on n'a pas de statistiques sur le sujet. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous, on a envie de vous entendre de vive voix. Elle est française, il est cubain. Vanessa Isaac se sont rencontrés il y a 4 ans à La Havane. Le jeune couple vit aujourd'hui dans la région parisienne avec leur petite fille de 3 mois. Et ils ont raconté leur histoire à Alice Milo.
Salut ma belle.
Allez, hop. Tu viens avec le pyjama ? Tu viens avec papa mettre le pyjama ? Non, il est mouillé celui-là.
Oh là là, t'es fatiguée.
Qu'est-ce qu'il est beau !
Tiens.
Il y a tout dans la chambre en fait ?
Il y a tout dans la chambre.
Ok. Ouais, j'y vais. On s'est connus à Cuba il y a 300, dans un concert des salsa cubaines.
Lui, il vivait là-bas, déjà. Moi, j'étais en vacances. C'était la fin de mes vacances, d'ailleurs. Ouais, l'avant-dernier jour. Et donc, je repartais après à Paris. On s'envoyait plein de mails. Et puis, très vite, on s'est dit que ce serait bien de se revoir. Donc, je suis revenue, parce que c'est compliqué, en fait, de faire venir un Cubain en France. Toutes mes vacances, je l'ai passé à Cuba. Les notes de téléphone, c'était assez impressionnant. Oh, oui. Parce qu'évidemment, en plus, il n'y a aucun accord avec Cuba, donc tout est hyper cher. Enfin, bref. Au bout d'un moment, il faut prendre une décision, parce qu'on ne peut pas faire des allers-retours comme ça constamment. Donc, c'est arrivé assez vite, d'ailleurs, l'idée de se marier.
De se marier, ouais.
Ouais. Bon, ça a pris 6 mois pour qu'il puisse sortir de Cuba.
Après votre mariage ?
Après le mariage. Oui. Comme il est ingénieur, il ne laisse pas sortir la matière grise, on va dire, du pays aussi facilement.
Donc vous avez été mariés mais séparés pendant 6 mois.
Tout à fait. C'était très bizarre comme situation d'ailleurs.
Mais personne vous a mis en garde, personne vous a dit attends, ça va être super compliqué, vous parlez pas la même.
Ça, ouais.
Alors on m'a dit fais attention, ils veulent sortir du pays, ils veulent des papiers, ils veulent se marier pour pouvoir quitter Cuba.
Le risque c'était que en fait une fois mariés, ils prennent la poudre d'escampette.
Ils s'en aillent bien sûr. Je sais que c'était pas le cas pour mon mari parce que il vient d'une famille qui était pas vraiment dans le besoin. Je savais que on se mariait parce qu'on s'aimait, pas parce qu'il avait besoin de sortir. Voilà, moi j'avais mon travail en France, et puis j'avais mon fils aussi, donc je n'imaginais pas vivre à Cuba. C'était naturel qu'il vienne en France, pas parce qu'il voulait quitter l'île, mais parce qu'on se mariait, et parce que notre vie, on allait la faire ici.
Alors, une purée pour ce soir avec des côtelettes.
Oui, oui.
Et t'as ramené ça.
Tu me laisses faire, moi je me...
Tu les coupes et tu les fais frire, ça. Oui, c'est bananes plantain.
En fait, moi, je suis arrivé ici, déjà, dans l'aéroport. En fait, ça n'a pas été facile parce que, bon, tout était en français. À l'époque, moi, je parlais pas. Chaque fois que je me déplaçais, je devais le faire avec elle. Et donc, moi, j'avais l'impression d'être un enfant dans la rue pour faire les courses, pour faire des papiers.
Tout était nouveau. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une carte bleue, un chéquier.
Est-ce que ça crée un décalage qui pouvait aussi, de temps en temps, vous donner l'impression que vous étiez celle qui savait, qui devait lui apprendre, et un peu une inégalité, quelque part
Oui, au début, oui. Il y avait honte.
Donc, parfois, j'étais assez dure, en fait, et je m'en rendais compte après, parce que je lui demandais des choses qu'il ne savait pas. Les déséquilibres, il est là. La seule personne avec qui il pouvait communiquer, c'était moi. Quand il est arrivé, ça n'aurait pas été lui rendre service que de lui parler en espagnol. Donc, au début, évidemment, je lui parlais en espagnol, mais très vite, on s'est mis à parler français. Mon fils lui parlait en français. Moi, j'ai un grand garçon qui a 7 ans. Même s'il nous répondait en espagnol au début, ou même s'il ne comprenait pas tout forcément, on s'est tenu à ça. Et du coup, c'est vrai que c'est resté. Et on se parle tout le temps en français. Il a du mal à parler en espagnol avec sa fille. Et je le force un petit peu parce que sinon, elle ne va pas pouvoir, elle, communiquer avec ma belle-famille. Ça serait dommage. Et puis après, pour le côté forcément un petit peu plus drôle, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes références. Moi, quand je regardais des dessins animés, quand j'étais petite, il ne sait pas de quoi je lui parle. Et puis inversement, lui, parfois, il me parle de choses, je ne comprends pas. Des faits historiques, des choses qui se sont passées en France, qu'il ne peut pas connaître. Parce qu'en plus, Cuba, c'est quand même une île fermée. Les informations circulent pas forcément là-bas facilement. Il a un mal fou à comprendre qui est de droite, qui est de gauche, qui est de centre, qui est de... Donc,
là-bas, la question se pose pas.
Donc, si vous voulez, je répète constamment, non, alors elle, c'est pas de droite, c'est de gauche. Donc, c'est drôle parce que pour nous, forcément, c'est évident.
Mon famille là-bas, c'est là, ils l'ont bien pris. Oui, content.
Pour eux, d'avoir une personne qui est à l'étranger... et qui peut les aider en leur envoyant de l'argent ou...
Mais dès qu'on peut, voilà, oui, j'envoie de l'argent là-bas.
Et vous, Vanessa, ça vous convient ?
Ça me semblerait hyper déplacé de ne pas faire tout ça, quoi. Même si ce n'est pas ma famille, c'est ma belle-famille. Je sais ce qu'ils vivent, je sais qu'ils en ont besoin.
Ce n'est pas évident pour tout le monde, sachant que ça fait toujours de l'argent en moi. Donc, c'est pour ça, ma femme, elle est presque parfaite.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Voilà, je vous précise d'ailleurs que les Français sont champions d'Europe des couples binationaux. Et Isaac, cubain, a eu sa carte de séjour au bout d'un an, renouvelable tous les ans. Et tout récemment, il a obtenu une carte de séjour de 10 ans et il n'a pas encore fait sa demande pour obtenir la nationalité française. Que vous inspire cette histoire, ce témoignage, Charlotte Rosamond ?
Très joli témoignage. Je voudrais revenir sur la première partie de leur histoire. Il faut... Quand on parle de couple mixte, ça recouvre plusieurs réalités. Aux amoureux au banc public, on est sur la réalité de la binationalité. On est aujourd'hui dans un contexte de mondialisation. Donc voilà, comme Vanessa, il y a des personnes qui voyagent pour les vacances, pour le travail, pour les études. Et les rencontres se font. Or, on sait tous très bien ici qu'une grande majorité de la population sur cette planète n'a pas la liberté de voyager comme il le souhaite. Et il y a énormément de couples qui se retrouvent dans l'obligation de se marier pour pouvoir ensuite construire leur vie ensemble, s'ils le souhaitent, en France.
Vous voulez dire que le mariage n'était pas un projet en soi, finalement, mais plus une obligation administrative, étant donné la situation du couple mixte.
Pour Vanessa et Isaac, je ne peux pas me prononcer, mais c'est une réalité pour de nombreux couples. L'administration ne reconnaît pas la vie de famille tant qu'il n'y a pas ce contrat qui est signé. C'est très compliqué. Il y a des couples qui se paxent, mais...
Il faut préciser que tant que le conjoint n'a pas obtenu la nationalité française, il a donc une carte de séjour renouvelable. S'il y a séparation dans le couple, il perd sa carte de séjour ?
Il peut perdre sa carte de séjour au moment du renouvellement. Si le couple est séparé, qu'il ne peut pas prouver une communauté de vie, on ne renouvelle pas le titre de séjour.
Même s'il a des enfants sur le sol français ?
Alors à ce moment-là, il faudra faire une demande de titre de séjour qui sera différente. Oui, mais c'est d'autres conditions.
Voilà, c'est compliqué. Oui.
Je voudrais aussi revenir sur la notion de la question de la séparation qui était évoquée ici 6 mois. Il y a beaucoup de couples qui sont mariés sur le territoire français à qui on demande aux conjoints étrangers de retourner au pays chercher un visa. Et là, la séparation, elle peut durer de 6 mois à plusieurs années.
Isabelle Lévy, vous êtes attachée aux couples mixtes qui peuvent être sur le territoire français avec la même nationalité, le même milieu social, une éducation plus ou moins similaire, mais de religions différentes.
Absolument. Et les questions se posent, se multiplient, alors parfois au sein même du couple et très souvent aussi au niveau de l'entourage. Entourage familial, voire même professionnel, où chacun a son mot à dire, chacun pense quelque chose, et bien sûr, les discours sont souvent dissonants. Et le couple, parfois, est écartelé entre différentes pensées, et ne sait plus très bien s'ils ont raison ou non de s'aimer, de vouloir fonder une famille ensemble. Ceux qui résistent, c'est ceux qui sont arc-boutés sur leur point de vue. Mais faut-il encore qu'ils en aient parler. Il y a de trop nombreux couples mixtes religieusement qui ne s'entretiennent jamais sur leurs pratiques religieuses respectives et comment ils entrevoient leur couple. Qu'est-ce qu'on met dans le frigo? Comment on éduque les enfants religieusement parlant? Comment va-t-on organiser les rencontres des belles familles? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Est-ce qu'on met un crucifix au-dessus du lit, une mezouza à l'entrée et des versets coraniques dans le salon? Ce sont des questions. Ce sont des questions qui peuvent paraître banales, mais qui peuvent faire exploser des couples. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui explosent souvent à la venue de l'enfant. Je ne sais pas si un couple musulman-chrétien accepterait facilement qu'une petite fille s'appelle Victoire ou qu'un petit garçon s'appelle Mohamed. Il y a toujours la belle famille qui dit « mais moi, je ne me reconnais pas dans ce prénom ». Ça veut dire aussi que la grand-mère catholique ne pourra pas amener volontiers ses enfants à la messe ou au catéchisme ou au kermesse de la paroisse du coin. Que l'autre mamie ne pourra pas l'amener facilement à la mosquée ou lui apprendre l'arabe ou lui l'enseigner le comment faire le ramadan les prières. Donc, il y a des questionnements.
Vous trouvez que les couples ne sont pas suffisamment conscients de ces difficultés-là ?
Souvent,
ils semblent évidentes quand vous les énoncez. Mais...
Oui, mais alors souvent, ce sont des évidences niées au départ. Nous nous aimons, ça suffit. C'est ce que j'ai pu entendre pour la rédaction du livre « Vivre en couple mixte ». La majorité des couples qui ont explosé, ça nous paraissait une évidence, on s'aime, c'est suffisant. Et c'est en fait dans le quotidien, parfois même dans la vie commune, après mariage, ou dans l'organisation du mariage, même à la mairie, voire dans un lieu de culte quand il a été choisi, eh bien que les vraies questions sont posées et où parfois on n'arrive pas au mariage, ou en tout cas le mariage explose années après.
Dans les couples non mixtes, il y a aussi des tensions au moment des mariages, tensions familiales assez classiques.
Oui,
mais là, elles sont décuplées, vous trouvez?
Oui, décuplées, parce que est-ce que je mets du champagne ou pas sur la table? C'est une bonne question, surtout en France.
Charlotte Rosamond, vous souhaitez
Je voulais intervenir pour porter la voix des couples franco-étrangers qui rencontrent des difficultés au niveau administratif, parce que bien souvent, toutes ces questions qui traversent l'intimité du couple, elles n'ont pas le temps de s'y consacrer, parce qu'on est dans un combat quotidien parfois, pour obtenir une stabilité du séjour pour le conjoint étranger et pouvoir vivre sereinement sa vie de famille. Parce que quand on a un titre qui est provisoire de 1 an, on a du mal à trouver un CDI, on a du mal à obtenir un prêt pour acheter une maison, etc.
Et à se projeter du coup dans le couple
et à
poser les questions qui vont servir de fondation, c'est ça finalement?
Oui, tout à fait, c'est des questions qui sont les fondations même du couple et qui peuvent fonctionner après, au-delà des aléas, des problèmes administratifs, voire familiaux. familiaux et des événements que tout couple peut rencontrer dans son quotidien.
Nous donnons la parole à des auditeurs et des auditrices qui nous appellent dans l'émission aujourd'hui sur les couples mixtes. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le même du lundi au vendredi, 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin de Bamako, Mali. Bonjour Félix.
Bonjour Manuel.
Félix, vous avez 36 ans, vous êtes logisticien, vous êtes divorcé aujourd'hui, vous avez été marié pendant 4 ans à une épouse espagnole que vous avez rencontrée au Mali.
Tout à fait, tout à fait. Et voilà, je me suis rendu compte, une de vos invitées disait tout à l'heure que quand on s'aime, quand il y a l'amour, voilà, il apparaît évident que voilà, tout ira bien et on n'appréhende pas forcément les problèmes qui pourraient survenir. Mais dans la vie de tous les jours, moi je pense que sincèrement, je pense que les couples mixtes se sont un peu voués à l'échec. Parce qu'il y a beaucoup de différences qu'on n'appréhende pas forcément mais qui vous rattrapent. Moi avec mon ex-femme, le problème qui nous a les problèmes, entre autres problèmes qui nous ont vraiment poussé à la séparation, c'est la différence culturelle. Et la différence culturelle, c'est assez particulier parce que pour beaucoup d'autres couples mixtes, de notre cas, je veux dire hommes africains, femmes européennes, c'est très souvent des problèmes économiques qui créent de la discorde. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. Moi, je travaille depuis très longtemps, je gagne très bien ma vie. Elle aussi, c'était le cas, elle gagnait très bien sa vie. Donc, on était tous les deux très indépendants financièrement et j'assumais très bien mes charges de chef de famille.
Pas de problème religieux non plus, du fait que vous êtes musulman, je présume.
Religieux non plus. Non, je suis camerounais d'origine.
D'accord, très bien.
Voilà.
Donc chrétien tous les deux.
Moi-même chrétien, elle est totalement athée, elle ne croit pas en Dieu, c'est ce que je respecte d'ailleurs. Et moi, je suis pas très porté religion. Je crois beaucoup en Dieu, mais je crois pas trop religion, comme j'avais coutume à dire.
Ouais.
Voilà.
Alors donc, c'est quoi ces problèmes culturels qui ont fait capoter votre couple, Félix, en quelques mots?
Voilà. Le problème culturel en lui-même, voilà, pour parler d'un cas spécifique, c'est-à-dire c'est l'acceptation de ma famille. Je vais dire. Ma femme n'acceptait pas la présence de ma famille chez moi.
Vous avez hébergé un neveu, je crois, qui est venu pendant un an chez vous à Bamako pour passer le bac, donc il est venu du Cameroun.
Tout à fait.
Elle a eu du mal à vivre cette situation-là.
Tout à fait.
C'est une situation très banale, d'héberger des enfants de sa famille, du cercle élargi, oui.
À la base, c'est une situation très banale, mais elle l'a absolument pas accepté et elle nous l'a fait ressentir à mon neveu et à moi pendant tout le temps qu'il était là et ça a répercuté sur ma famille qui m'en a voulu à moi et qui a considéré que je les ai reniés, j'ai pas voulu les aider alors que moi j'étais un peu entre le matin et l'enclume parce que je devais calmer, je devais essayer d'expliquer les choses à ma femme. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a été très mal vécu et jusqu'à aujourd'hui encore, je vous dis qu'il reste des séquelles dans les rapports que j'ai avec ma grande sœur, notamment la mère de mon neveu. Et ma femme n'a jamais voulu comprendre cela. J'ai tout fait, limite je lui ai dit, écoute, si tu m'aimes, bon c'est un peu de chantage, si tu m'aimes, est-ce que tu pourrais pas te mettre à ma place et accepter la situation? Elle ne voulait absolument rien comprendre. Et voilà, donc c'est ça. Il y avait également le fait que ma maman était très malade à l'époque, ma maman perd son âme. Était très malade à l'époque et ma femme n'a jamais daigné prendre son téléphone pour lui passer un petit coup de fil pour savoir comment elle allait. Franchement, ce n'était pas son problème. Quand il m'arrivait d'avoir ma mère au bout de fil et que ma femme passait par là, je voulais la lui passer pour qu'elle lui dise bonjour. L'autre, elle trouvait toujours le moyen d'essayer de filer.
Il y a beaucoup de ressentiment dans ce que vous dites. Je sais aussi, vous avez dit au Standard que vos amis aussi lui reprochaient, donc des femmes africaines lui reprochaient de ne pas s'occuper des repas, etc. Donc on voit bien qu'il y a eu un vrai problème culturel. Merci pour votre témoignage, Félix. On va bien sûr vous laisser la parole dans le studio pour commenter l'histoire de Félix qui a eu deux enfants qui sont du coup repartis en Espagne et donc ce sont des enfants que Félix ne voit qu'une fois tous les ans ou tous les deux ans. D'autres témoignages nous parviennent au Standard. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Religion, culture, langue, quelle barrière pour les couples mixtes? Rendez-vous dans 3 minutes. RFI et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, couple mixte et amour sans frontières, est-ce si simple? Nous posons la question et bien sûr nous attendons vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Isabelle Lévy, vous avez publié « Vivre en couple mixte quand les religions s'en mêlent » aux éditions L'Harmattan. Charlotte Rosamond, vous êtes coordinatrice de l'association Les Amoureux au banc public, qui est vraiment une association qui vient en aide aux couples binationaux, mais alors pas les couples binationaux tous les deux au sein de l'Union Européenne, parce que là il n'y a pas d'histoire de paperasserie administrative. Mais plutôt évidemment
quand l'un des deux époux ou l'un des deux membres du couple est un ressortissant hors Union Européenne.
C'est ça. Doit demander un visa, etc. Et ensuite carte de séjour, etc. D'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire qu'il vient d'un pays pauvre, d'un pays du Sud.
Absolument
ça peut
pas.
Être un. Hein, vous nous parliez d'un couple hors antenne espagnol.
Espagnol et brésilien.
Oui.
Qui rencontrent
que des tracasseries administratives.
Qui vivent sur le territoire français et qui rencontrent de grandes difficultés. Parce que le séjour de la ressortissante espagnole est remis en cause également.
Comment vous avez entendu le témoignage qu'on a eu juste avant le flash de Félix à Bamako, divorcé d'une jeune femme espagnole avec deux enfants qui sont repartis en Espagne et une faillite alors que pas de problème de religion, pas de problème d'argent, une vraie histoire d'amour au départ?
Écoutez, plutôt un couple qui était... Peut-être qui devait aboutir peut-être à cette séparation parce que la femme s'attendait à épouser un Africain, je veux dire, d'un bon niveau intellectuel et financier et ne pensait pas qu'elle devait en plus, je dirais, se coltiner, pardonnez-moi le terme, toute la famille et toute la culture africaine, c'est-à-dire une présence familiale très prégnante, une obligation de se mettre à la cuisine, etc. Je pense qu'elle pensait vivre avec un monsieur d'un haut niveau intellectuel et financier et se dire « Eh bien, je ne vais pas être embarrassée par la culture. » Ben non, elle devait vivre à l'africaine, même s'il était espagnol, et elle n'a pas eu ce choix, malheureusement,
que partir. Oui, vous dites ça, ça ne veut pas dire que vous partagez son
analyse. Je ne partage pas du tout son analyse à elle, parce que je pense qu'en effet, elle aurait dû aussi ouvrir les yeux, et, en même temps que son cœur, sur la réalité de la situation, et peut-être qu'avant de s'adapter, regarder quand même, non pas par rapport à son propre reprise, mais par rapport à la réalité, qu'en était-il de ce monsieur et de son entourage familial.
Et la solidarité qui, certes, effectivement, est une forme de pression, mais qui est aussi quelque chose qui est porteur d'enseignement.
Oui, c'est-à-dire, en fait, quand on épouse aussi une personne, on épouse aussi souvent sa famille, il ne faut pas le nier. Donc, si on ne peut pas non plus demander à une personne de se couper de sa famille sous prétexte d'amour. Et là, je dirais, peu importe la culture ou la religion d'origine.
Je vous lis le témoignage de Mohamed à Dakar. Mon histoire, c'était avec une Vietnamienne. Elle n'a duré que le temps d'un séjour de 2 mois en Asie, moi, black musulman, elle, vietnamienne depuis 1000 générations, peut-être beaucoup, mais athée de surcroît. On était trop différents, le seul point commun, ce sentiment qui se nomme amour, il est écrit en majuscule hein, quand même, mais une union qui avait déjà le passeport du passé, car c'était trop risqué de l'emmener au Sénégal, surtout dans une famille comme la mienne. Voilà. Et puis un autre témoignage, Claude, Paris, Camerounais catholique, j'ai rencontré ma copine sénégalaise et musulmane à l'université en France. Dès que la relation était connue, ma famille s'est posé plein de questions sur nos différences religieuses, mais au sein du couple, ce sont surtout des différences d'ordre culturel qui ont posé problème. Par exemple, s'embrasser sur la bouche ou même une bise devant quelqu'un de sa famille, ça la gêne. Malgré tout, depuis un an et demi, nous sommes ensemble et ça se passe bien. Nous tenons l'un à l'autre, nous discutons ensemble de la culture de l'autre. On découvre, nous sommes des touristes l'un pour l'autre. C'est joli.
C'est joli.
Très joli.
Très joli.
Je préfère le terme touriste que le terme étranger.
Oui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous avons, nous, en ligne, contacté par nos soins, une psychiatre anthropologue. Bonjour Berthe Lolo.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes camerounaise, vous exercez en France, vous recevez des couples mais aussi des personnes qui viennent vous consulter individuellement. Alors c'est vrai que les gens qui consultent un psy, c'est souvent pour parler de sa vie sentimentale ou de sa famille. Vous, comment vous voyez-vous le sujet du couple mixte?
Le sujet du couple mixte, c'est un sujet un peu compliqué parce qu'on parle du couple. C'est pas facile de parler du couple et je pense que ce que nous sommes en train de dire, ce que j'ai entendu, c'est que les couples mixtes, comme disait quelqu'un, sont plus ou moins voués à l'échec. Alors, on se poserait la question, pourquoi ces couples sont voués à l'échec? Et quelqu'un a dit aussi, parmi les intervenantes là, c'est que le couple tout seul, c'est compliqué. Et le couple peut exploser.
Ce que vous voulez dire, c'est que déjà le couple en tant que tel, c'est compliqué aujourd'hui, oui. à notre époque contemporaine, oui. mais alors mixte, c'est encore plus compliqué, c'est ça, finalement. Vous êtes assez pessimiste, alors, Berthe.
Non, je pense qu'il faut, dire, il faut pointer les choses. Le couple, tout simplement, est déjà compliqué, et le couple se sépare. À cause des différences.
Alors, vous avez beaucoup réfléchi sur la question de la couleur de la peau.
Oui.
Quand on a discuté pour préparer cette émission, Berthe, vous m'avez dit que la couleur de la peau reste une question de couple mixte. Mais aujourd'hui, en France, on est dans une nation multiculturelle. Deux jeunes qui ont grandi dans le même quartier, qui sont allés dans les mêmes établissements, qui ont la même religion. On peut imaginer un enfant issu de la diversité de familles chrétiennes, de parents, de grands-parents africains. Enfin, ils ont tout. Donc, la même éducation, le même niveau social, la même nationalité. Simplement, ils n'ont pas la même couleur de la peau du fait de leurs origines lointaines ou pas très lointaines. Vous vous dites, ça continue d'être un couple mixte.
Oui, je le dis parce que le couple reste toujours un couple mixte. Le couple de deux Français blancs reste un couple mixte. Ça, c'est la première des choses.
Attendez,
et c'est la raison pour laquelle
Français,
le couple
blanc
est différent.
Et noir, vous voulez dire.
Oui, blanc et blanc, ça reste déjà un couple mixte, hein. Mixte sur le plan anthropologique. Nous sommes différents et nous avons du mal à accepter ces différences-là.
D'accord, mais parlons d'un couple blanc et noir, pour simplifier les choses.
Oui, et justement, et lorsqu'il y a les différences blanc-noir, différences ethnie, différences religion, la différence s'invite dans le réel. Et donc, c'est là où ça devient très compliqué, parce que, au fond, je repars encore en arrière, le couple tient... Lorsque le couple normal, je vais dire de même couleur, de même région, de même tient, parce qu'on a réussi à accepter la différence, les défauts de l'autre, ainsi de suite. C'est pour ça que le couple tient. Or, parce qu'ils acceptent la différence. Lorsque, par exemple, la différence est très crue comme ça, est-ce qu'on peut travailler le symbolique là-dedans? C'est là où ça devient compliqué. Parce que le réel empêche le travail du symbolique. C'est pour cela qu'on peut dire que c'est un peu voué un peu à l'échec. Et pourquoi est-ce que c'est un peu voué à l'échec? Parce que blanc, noir, ethnie, tout à l'heure on a dit on n'épouse pas le conjoint, on épouse aussi la culture, on épouse la famille. Et malheureusement, la différence renvoie à la culture qui est encore hiérarchisée à nos jours.
Vous faites des différences dans un couple entre un homme noir, une femme blanche et inversement, une femme noire, un homme blanc pour vous?
Oui, justement à cause de la hiérarchie de cette différence. En général, je vais vous dire par exemple, vous verrez très peu de couples hommes blancs, femmes noires. L'inverse est plus retrouvé. Plus facilement, on trouve les couples hommes noirs, femmes blanches. Pourquoi?
On n'a pas de statistiques de toute façon pour vous répondre, hein, puisqu'on n'a pas de statistiques de toute manière ethnique en France. Mais, Charlotte Rosamond, comment vous réagissez là, par rapport à l'analyse de Berthe Lolo?
Alors, que ce soit l'analyse qui vient d'être faite ou le témoignage de tout à l'heure, c'est vrai que quand j'entends que les couples mixtes sont voués à l'échec, c'est une phrase qui me choque un peu. En même temps, j'ai envie de dire, quel couple n'est pas voué à l'échec au final? Parce qu'effectivement, ça vient d'être dit, il y a des différences. Elles peuvent être culturelles, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être de tout ordre. J'ai envie de dire, laissons-nous une chance. Quand on est en couple franco-étranger, laissons-nous une chance. Et puis l'entourage et l'administration devraient pouvoir laisser une chance aussi au couple de construire quelque chose et de prendre le temps d'allier ces différences.
Isabelle Lévy?
Oui, je pense qu'il faut quand même, si ce couple a envie de vivre ensemble, il devrait mettre quand même aussi toutes les chances de son côté. C'est-à-dire de s'écouter, peut-être, de regarder autour et de se dire que pouvons-nous construire ensemble. On n'est pas obligé de construire le même couple que sa famille ou que son cousin. On peut construire son propre couple avec ses propres choix. L'important, c'est qu'ils nous conviennent, à l'intérieur même du couple comme à l'extérieur. Mais en effet, si on a envie de vivre ensemble, ne pas dire commencer par l'échec, parce que dans ce cas-là, évidemment qu'on ira vers l'échec.
Alors, on va reparler des mariages interreligion. Je voudrais qu'on laisse la parole à un auditeur qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour, bonjour Célestin.
Bonjour.
Célestin, vous avez une belle histoire à nous raconter, je crois. Vous avez 62 ans et vous êtes marié depuis combien de temps à une Française rencontrée en France?
Bientôt 39 ans.
39 ans, waouh. Bon, belle histoire d'amour, non, je présume?
Bon, belle histoire d'amour, de compromis, d'entente, de... comment dirais-je, de fâcherie, comme tout couple, et puis de réconciliation.
Ah, vous avez mis le mot compromis en premier.
Ah oui. C'est important dans tout couple, que ce qu'il soit mixte ou non.
C'est-à-dire?
Ben, compromis, c'est-à-dire s'entendre sur beaucoup de choses, se fixer certaines, comment dirais-je, pas des règles de vie, mais quand même, voir ensemble, comment dirais-je, ce qui ne va pas chez l'autre,
alors, essayer de comprendre. Justement, vous avez trois enfants, trois petits-enfants aujourd'hui, hein, après presque 39 ans de mariage. Oui. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez surmontées? Davantage des difficultés d'ordre culturel, en deux mots.
Les principales difficultés, c'est d'abord, bien sûr, en France. Il faut dire que, même en France, et pas seulement en Afrique, en France, il y a aussi, c'est dans certains milieux, ils voient mal un noir épouser une belle française. Il y en a qui m'ont même dit que sur 60 millions de Français, tu n'as pas de trouver un Français pour t'épouser.
Bon, voilà, vraiment le racisme de base.
Arrivé en Afrique, bien sûr, je crois que le problème, c'est que les couples mixtes escapent d'abord pourquoi? Parce qu'il faut dire la vérité. Certains Africains font croire à leur futur ou leurs époux quand ils sont encore en France, par exemple, que quand ils sont encore en Europe, que c'est bon, vu leur diplôme, ça va être très, comment dirais-je,
il n'y aura pas de différence culturelle.
Oui. Arriver à, parce qu'il faut dire d'abord la vérité. Depuis, par exemple, si vous êtes marié en étranger, en Europe, en France, aux États-Unis, il faut dire déjà la vérité à votre épouse.
Donc voilà, il faut avoir du recul. Il faut être capable de parler de la culture de sa famille. Il faut avoir ce recul-là aussi. Mais des choses qui peuvent être des évidences pour vous, voilà, c'est pas évident de les raconter.
Oui. Et arrivé chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé rentrer. Pourtant, j'étais au cadre dans une banque, mais je suis d'abord allé rentrer chez un parent pendant deux mois pour sur le plan traditionnel, au quartier traditionnel, avec ma femme. On a fait deux mois pour qu'elle voie comment la famille vit dans la solidarité.
Avant l'engagement, donc, du mariage.
Non, on était déjà mariés.
Ah, vous étiez déjà mariés. Bon, d'accord.
On était déjà mariés, c'est-à-dire quand nous sommes rentrés à la fin de nos études, parce qu'elle, elle est au cadre supérieur, moi aussi je suis cadre supérieur, on a tous les deux nos doctorats en économie et en gestion. Donc, alors, on est rentré.
Merci pour votre témoignage, Célestin. Je voudrais qu'on revienne à la question religieuse, d'abord sur cette histoire de tout dire avant, tout expliquer. Dans le cas des mariages interreligions, comment se pose le problème, Isabelle Lévy? Parce que votre livre, c'est vraiment un livre, c'est vraiment un guide hein, pour savoir comment procéder.
Il pose les vraies questions. Voilà. Il ose poser des questions.
Je suis juive, j'épouse un musulman. Enfin, tous les cas de figure.
Voilà, hein, tous les cas de figure, les hindous, les bouddhistes, les chrétiens aussi entre eux. Il y a des questions parce que est-ce que je dois dormir ou pas au-dessus d'un crucifix? Même pour un protestant, ça pose problème. Question. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Surtout si le crucifié a été offert par la grand-mère. Est-ce que je dois le mettre dans un placard? C'est une question. D'ailleurs, cette question a entraîné un divorce. Mais enfin bon, c'est pas grave. Mais pour dire que d'une certaine façon, il faut oser se poser ce genre de questions avant l'engagement, bien sûr. Et je dirais même avant presque de commencer l'histoire.
Parce que, pour la religion comme pour la culture. Là, oui, Célestin
oui,
nous
je
parlait
pense
davantage
que pour les
de
deux,
la culture.
Il faut se poser les questions et oser se dire, bon ben voilà, imaginons que nous vivons ensemble tous les deux et que nous fondions une famille, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Alors qu'est-ce qu'on choisit bien dans le quotidien? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on célèbre? Comment je reçois nos familles? Comment tu veux que je m'habille? Où passerons-nous nos vacances? Quelles seront nos lectures et quels seront nos loisirs, etc. C'est-à-dire oser poser des questions. Nous avons des enfants, très bien. Comment les prénomme-t-on? Est-ce qu'on va aller chercher des prénoms dans l'arbre généalogique de la famille?
Oui, vous revenez
dans
souvent
des livres
sur le
sacrés.
Prénom. C'est si symbolique
oui,
que cela pour
parce
vous.
Que c'est symbolique. Je l'inscris la future génération, dans quelle lignée?
Mais aujourd'hui, vous savez que les couples en France choisissent des prénoms extrêmement originaux. On ne sait pas vraiment d'où ça sort. D'ailleurs,
oui, parfois,
du coup,
ça vient de nulle part.
Parfois, ça vient
de nulle part. Ou ça vient du cinéma, ou du bouddhien.
Ça règle la question des origines culturelles.
Oui, mais on s'est aperçu que des personnes aimaient bien aller, surtout aller chercher des prénoms dans les arbres généalogiques des familles.
Oui, je voudrais intervenir, si vous le permettez.
Justement, bien sûr.
Sur l'idée de tout se dire, de réfléchir à toutes ces questions-là, et l'idée de se découvrir. Comment découvrir la famille de l'autre, l'entourage de l'autre, son pays, quand on est de deux nationalités différentes, et que pour l'un, se déplacer dans le pays de son conjoint est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est une question importante pour les couples. Souvent, les ressortissants européens n'ont pas de difficulté à aller dans d'autres pays pour découvrir la famille, etc. L'inverse, c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a rien qui permet de le faire. Et puis, effectivement, je rejoins le Célestin sur le fait qu'en France, aujourd'hui, la mixité n'est pas très bien acceptée. On le voit au niveau de l'État, au niveau de l'administration, de nombreuses personnes nous font part de discours du type « mais il faut mieux choisir, pourquoi êtes-vous allé chercher votre conjoint ou votre conjointe à l'étranger ?» etc., etc.
Dans les grandes villes en France, je ne parle pas de l'administration, vous êtes forcément, vous faites du conseil juridique et administratif pour les couples binationaux, mais en dehors de l'administration française, pour, en raison de politiques migratoires, socialement, dans les grandes villes, c'est aujourd'hui de mieux en mieux accepté, non ? Que vous disent les couples ?
C'est pas tout à fait ce qu'on nous dit. Disons que c'est l'idée qu'on en a, que c'est de mieux en mieux accepté. De toute façon, c'est une réalité. Mmh. Et effectivement, ne pas l'accepter serait complètement absurde. Mais dans la réalité, au quotidien, on nous fait part de nombreuses difficultés. Effectivement, pas forcément uniquement avec l'administration, mais des remarques, que ça peut être de l'entourage professionnel, de l'entourage familial, qui ne comprennent pas parfois la situation, les difficultés qu'il peut y avoir, etc.
Nous accueillons une auditrice, Malika, qui nous appelle de Niamey. Bonjour Malika.
Bonjour.
Oui, bonjour Malika, soyez la bienvenue. Vous nous appelez du Niger, oui. Mais vous êtes burkinabé, je crois.
Oui, je suis burkinabé.
Alors, vous êtes mariée depuis près de 20 ans avec un conjoint qui est burkinabé comme vous. Vous avez au moins la même nationalité, mais vous ne faites pas partie de la même ethnie.
Voilà, il est Dioula, moi je suis Mossi.
D'accord, il est Dioula, vous êtes Mossi. Et alors ?
Oui. Et je veux dire que même à l'intérieur de la même nationalité, il y a des problèmes. Dès le début, il faut s'entendre sur un référentiel commun.
Oui.
Je veux dire que lui, il est Dioula, moi je suis Mossi. Mais on a en commun le fait qu'on est tous, on est des musulmans. Donc je dis, au lieu de se laisser malmener par les deux familles, qui passent tout le temps à nous critiquer.
Je suis désolée, la ligne se dégrade, Malika, mais on a bien compris votre propos. Finalement, si je comprends bien, vous êtes recentrée sur votre pratique religieuse commune, vous êtes musulmans tous les deux, pour laisser moins de place aux ressentiments éventuels et aux clichés, aux préjugés des deux familles qui peut-être n'apprécient pas cette union. C'est intéressant ce témoignage sur, du coup, comment est-ce qu'une religion commune peut souder un couple avec d'autres types de différences qui peuvent, elles aussi, parfois être difficiles à surmonter.
Justement, c'est se retrouver sur ces rites qui sont les mêmes pour l'un pour l'autre. Parce que quand on se met en couple, il faut découvrir déjà l'autre personne, indépendamment de sa culture, de sa religion, etc. Il y a déjà la personnalité, son propre histoire à découvrir et à faire sienne, ou partiellement. Mais justement, c'est ce qui pose problème dans le couple mixte, culturel ou religieux, c'est je vais me mettre avec quelqu'un dont il y a des repères qui me sont totalement inconnus. Et donc je comprends que ce couple-là s'est soudé autour de repères connus qui sont les mêmes pour eux, et non pas ethniques mais religieux, et où les familles peuvent apprécier de se dire « oui, là je reconnais mon enfant, et là je peux me projeter dans ce couple et voir dans la future génération ».
Je voudrais laisser la parole à Berthe Lolo, vous êtes toujours en ligne avec nous, psychiatre, anthropologue. Vous venez d'un pays, le Cameroun, très pluriethnique. Les mariages mixtes sur le plan ethnique sont-ils extrêmement communs ? Comment sont-ils vécus aujourd'hui ?
Avant, ils n'étaient pas très communs parce que, je vous dis toujours, il y a une hiérarchie. Nous avions ceux qui étaient plus supérieurs aux autres. Et donc, lorsque, par exemple, imaginons quelqu'un, une femme, une fille, Douala, par exemple, se mariait avec un garçon Bamileke, c'était très mal vu. C'est très mal vu parce que, entre guillemets, les Douala se sentent supérieurs aux Bamileke.
Oui, on a bien compris que là, il s'agit de préjugés.
Ce n'est plus d'actualité maintenant à cause des réalités économiques. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas être pessimiste en disant que les mariages mixtes sont voués à l'échec. Je voulais simplement être d'avis avec Madame Elisabeth Lévy qui dit, Isabelle, avant le mariage, avant qu'on accepte de se mettre ensemble, il faut en effet qu'on pose des questions, qu'on se repère, qu'on trouve un peu ce que c'est que nos différences culturelles. Et parce que qu'on le veuille ou pas, notre culture, comme on a dit, on n'épouse pas l'autre, on épouse aussi toute la famille, on épouse la culture. Et comme j'ai dit, malheureusement, il y a toujours une culture ou une ethnie ou une portion de population qui se pense supérieure à l'autre. Et dans ce truc-là, dans le couple, dans le quotidien, comment ça s'est vécu, quoi. Et si, par exemple, on n'est pas assez solide, comme par exemple ce dernier couple qui s'est mis autour de leur religion commune, très vite, l'extérieur va rentrer dans l'intérieur et va faire exploser le couple.
Nous accueillons Moussa qui nous appelle de Dakar sur son histoire, un couple interreligieux. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre situation? Vous êtes musulman et votre fiancé est chrétienne?
Moi, je suis sénégalais et musulman et que je sors avec une fille chrétienne.
De quelle nationalité?
Sénégalaise aussi. Et par contre, elle est pratiquante et moi non plus. Vous savez, au Sénégal, quand on est né dans une famille, soit une famille musulmane, on devient par défaut un musulman. Mais moi, je suis non pratiquant et puis que je suis avec une fille avec qui j'ai tombé amoureux de lui. Et ma famille est contre ce mariage-là. Moi, je veux bien la marier. Mais par contre, mes parents ont opposé à ce genre de relation. Et ils m'exigent à ce que je convertisse la fille à musulmane.
C'est ça. Ils vous disent, tu peux l'épouser, mais il faut qu'elle se convertisse et qu'elle devienne musulmane comme toi. C'est bien cela.
Effectivement, effectivement.
Isabelle Lévy
pourtant,
va
le
pouvoir...
Coran prévoit, enfin autorise le mariage d'un homme musulman avec une femme juive ou une femme chrétienne sans exiger d'elle la conversion à l'islam. Par contre, cette femme chrétienne que vous épouserez doit s'engager à éduquer vos futurs enfants dans l'islam. Donc, il est vrai que vous pouvez dire à vos parents, mais le Coran l'autorise. M'autoriserait en tant que musulman à me marier avec une chrétienne, si toutefois elle est bien d'accord, cette future femme, à élever les enfants dans l'islam. Donc, c'est autorisé par le Coran.
Voilà ce qu'on pouvait vous apporter comme précision, Moussa. Vous êtes nombreux à nous appeler. Je voudrais qu'on donne la parole à Julie qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Julie.
Voilà, je suis française athée, mariée avec un Sénégalais musulman depuis plusieurs années maintenant. Nos différences nous ont poussé, nous, à plus de communication que j'avais pu en avoir dans mes couples précédents avec des hommes blancs de la même religion ou croyance que moi. Donc de nous savoir différents, ça nous a poussé à tout, à parler de tout, à tout décortiquer. Et chose que tout le monde devrait faire. Et justement, au contraire, je pense que ça nous a aidés. Par rapport à des couples qui pensent qu'ils sont pareils.
Vous avez fourni finalement un effort supplémentaire.
Oui, mais pour le mieux.
Mais bien sûr, bien sûr.
Alors, une chose qui nous a beaucoup aidé aussi quand même, c'est qu'on a passé plusieurs années en expatriation dans un tiers pays. Voilà, ça a été très important d'être ni chez l'un ni chez l'autre. Et ça nous a permis de nous créer. Et maintenant, on est beaucoup plus à même de pouvoir vivre dans un des deux pays.
Quel conseil vous donneriez à des couples mixtes qui nous écoutent, quelle que soit d'ailleurs l'origine de la mixité, la religion, la langue, la culture? On a tout évoqué aujourd'hui depuis le début de cette émission. Julie?
De discuter, de parler, comme le disait le monsieur tout à l'heure, de se fâcher aussi, d'accepter ça, mais d'être très ouvert. C'est assez dur. Moi, j'avais vécu plusieurs années en Afrique, donc je... Peut-être que je savais à quoi m'attendre aussi, quelles étaient les questions. Mais
compromis, fâcherie et dialogue, comme le disait Célestin Libreville tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vous laisse le mot de la fin, bien évidemment, à nos invités. Isabelle Lévy, sur la question des religions, peut-être un conseil sur bâtir en commun, je ne vais pas dire une mixité des religions, un syncrétisme, ce n'est pas ce que vous préconisez du tout.
Non, pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout préconisé aussi par les psychologues, par les psychiatres non plus. Donc, non, c'est trouver le terrain d'entente qui convient à chaque couple. Il n'y a pas une réponse, il y a des milliers de réponses autant qui peuvent se diversifier selon les couples, mais en tout cas s'entendre déjà soi-même, en effet, sur ce que l'on désire réellement pour pouvoir, je dirais, mieux répondre peut-être à l'entourage familial et amical.
Charlotte Rosamond.
Oui, ce que je retiens de ce dernier témoignage, c'est la richesse que c'est de vivre en couple mixte et de savoir surmonter justement les difficultés qui pourraient être liées aux différences. Et j'inviterais tout un chacun à accepter cette richesse aujourd'hui en France ou ailleurs.
Voilà, et inviter au dialogue au sein même du couple.
Je vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission. Isabelle Lévy, vous publiez « Vivre en couple mixte quand les religions s'en mêlent » aux éditions L'Harmattan. Charlotte Rosamond, coordinatrice de l'association Les Amoureux au banc public. Alors, il y a un site, il y a une page Facebook, il y a des sites participatifs qui s'appellent « Nous sommes ici », qui recueillent aussi des témoignages très nombreux et puis beaucoup d'aides juridiques administratives. Merci aussi beaucoup à Berthe Lolo, psychiatre camerounais exerçant en France d'avoir participé à l'émission et à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Romain Dubrac, Sandrine Straram, Jonas Malé-Solars. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur la société japonaise. Nous parlerons des aspirations des jeunes avec une fine observatrice, Muriel Jolivet, installée à Tokyo depuis 40 ans, sociologue, professeur d'université. Son dernier livre, Confidences du Japon. Très, très surprenante ces confidences. Ne manquez pas l'émission.
Autour de la question.